Parce qu'il faut quand même vous dépeindre le paysage, c'est-à-dire dire, je vais déjà vous exposer en trois brèves parties ce qu'est la presse et comment on travaille. Parce que traiter l'information, c'est effectivement notre travail. Déjà, en introduction, une petite précision sémantique. Je voudrais revenir sur un sujet qui m'est assez cher en introduction, c'est la différence. Le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est le traitement de l'information. Or, l'information, c'est de la communication. Mais information et communication sont deux choses totalement différentes. Nous, journalistes, nous recevons de la communication et nous faisons de l'information. Quand vous êtes sur Internet, vous avez accès à de la communication, pas forcément à de l'information. Le métier d'un journaliste, c'est d'être à la fois une éponge et un filtre. On absorbe cette communication et on vous redonne de l'information. C'est-à-dire que la communication nous donne un fait brut. Et nous, journalistes, on va analyser ce fait avec notre mémoire, avec notre culture, et ensuite vous restituer de l'information, c'est-à-dire vous mettre ce fait en perspective. C'est ça notre métier. L'information, c'est mettre le fait en perspective et en analyse. Cette première précision sémantique, elle m'est très chère parce que à l'heure d'Internet et à l'heure justement de la communication instantanée, c'est-à-dire quand vous voyez des images ou quand on tweet, c'est pas de l'information, c'est de la communication. Il n'y a pas d'analyse en cinq mots, c'est pas vrai. Donc, alors, vous, c'est votre culture et c'est normal, et je suis pas pour qu'on revienne à pédaler pour avoir de l'électricité, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut que vous ayez, vous, dans votre culture, un regard critique et suffisamment de recul par rapport à cette communication-là pour pas vous dire que c'est de l'information. Parce que cette communication-là, c'est peut-être proche de la propagande et former les idées, formater les idées. La propagande, c'est pas de l'information, c'est de la communication. Donc ça, c'est dans le traitement de l'information, je pense que c'est une introduction extrêmement importante. On en discutera tout à l'heure peut-être, j'aimerais avec vous. Donc déjà, vous expliquer comment on travaille, comment tous les journalistes en France travaillent, qui viennent de la presse écrite comme moi, ou radio, télé, internet, hein, il y a des médias sur internet, et hebdo, enfin, peu importe. D'abord, les différentes formes de presse. C'est pas la presse, c'est différentes formes de presse. Vous avez la PQR, c'est quoi ? C'est la presse quotidienne régionale. Ici, c'est la Voix du Nord. Et la presse quotidienne régionale est beaucoup plus lue que la presse quotidienne nationale. Elle touche beaucoup plus de monde. C'est l'information de proximité. La notion de proximité en information se retrouve partout. Tout à l'heure, on discutait avec Madame Zoubaïdi et je lui disais qu'en fait, je vais m'interrompre tout le temps, je vais faire 36 000 parenthèses pour vous donner des exemples pratiques à chaque fois. Elle disait, oui, mais regardez dans les événements du Japon, comment les médias japonais ont réagi de manière froide et posée, et comment nous, en France, on fait du catastrophisme, etc. Et je lui dis, mais pourquoi ? Parce que la presse, c'est de la proximité, et c'est de la proximité à tous les niveaux, puisque c'est la presse n'est qu'un miroir de la société. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend les faits, on les absorbe et on vous donne de l'information. Ces faits-là, ils nous viennent de notre culture et on les absorbe avec notre culture. Donc, le journal, un journal, quel qu'il soit, c'est fait pour être lu, ou c'est fait pour être vu. Après, on rentrera peut-être, pour avoir un œil critique, dans la logique commerciale, parce que pour être vu ou pour être lu, il ne faut pas forcément donner de la dose. Mais il y en a qui pensent que pour plaire au plus grand nombre, faut faire la dose. Je pense pas. Je pense que justement, si vous êtes là aussi nombreux cet après-midi, c'est bien parce que vous avez conscience qu'il y a un besoin de critique par rapport à ce qu'on à toute l'information dont vous êtes gavé à longueur de journée. Et ce que je pense, c'est que trop d'informations tue l'information. Et il faut avoir plusieurs filtres dans votre lecture. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc à côté de la BQR, vous avez les quotidiens nationaux. Les quotidiens nationaux, ils ne sont pas 36 000. Hein. Le Monde, Le Figaro, Libé, Les Échos, La Tribune et Le Parisien. C'est à peu près tout. Hein. À grande diffusion. L'Équipe, bien sûr. J'avais oublié L'Équipe. Très important, L'Équipe. Mais chacun de ces quotidiens, comme la radio, une personne qui écoute France Inter, elle n'écoute pas Europe 1, et une personne qui écoute Europe 1, elle n'écoute pas RTL et elle n'écoute pas BFM. Quand je vous disais tout à l'heure, je vous demandais juste qu'on arrête de faire du brouhaha, parce que moi ça m'oblige à élever la voix et je vais terminer au bout d'une demi-heure sans voix, puis c'est pénible pour moi. Chaque média a son public et correspond à son public. Donc un lecteur des Échos, c'est aussi vraisemblablement un lecteur du Monde ou du Figaro ou de Libé. Mais si vous faites des segmentations de public, un téléspectateur de TF1 va plutôt écouter les news sur Europe 1 ou sur RTL que sur France Inter. Et inversement, donc vous avez une sectorisation et vous avez un public, donc vous correspondez à votre public et vous donnez l'information à votre public. À côté de ça, vous avez bien sûr les hebdomadaires et les mensuels. Un hebdomadaire et un mensuel n'a pas le même regard que le quotidien. Le quotidien, on a très peu de temps, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour se retourner sur l'information. L'hebdomadaire, a priori, il a plus de temps. Et encore, parce qu'il a, comme nous tous, un jour de bouclage, où, de toute façon, il est obligé de s'arrêter. On arrête les compteurs, le bouclage, et on arrête les compteurs. On arrête l'information qu'on reçoit, et on envoie la copie. Mais ça, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, parce que je pense que assez peu de personnes savent comment on travaille. Alors, comment on écrit, justement? Vous avez plusieurs formes d'articles. Juste pour vous dire, je donne des cours à ASAS, à la fac à Paris, en communication juridique, parce que moi, je suis grand reporter. Grand reporter, ça ne veut pas forcément dire que là, je pars à Fuji, au Japon, ou que je suis en Libye. Ça veut dire que c'est un poste hors hiérarchie dans un journal qui est au niveau de la rédaction en chef. Mais vous avez quand même une spécialité. Et moi, ma spécialité, en gros, si je veux dire, c'est les grands procès. Donc je vous disais ça pour vous dire que dans un journal, d'abord, on a une spécialité. Ensuite, vous avez plusieurs formes d'écrit. Vous avez la news. La news, c'est l'article de quotidien. Voilà. C'est la news, c'est le fait. C'est parce qu'il y a eu une dépêche sur le congé maternité, c'est l'article du quotidien. Vous avez l'interview. L'interview, c'est question-réponse. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la profession de journaliste, je leur signale que l'interview, contrairement à ce qu'on pense, c'est une des matières d'écriture les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que si vous prenez
au magnétium, là, ce que je suis en train de vous raconter, et que vous le mettez par écrit, je suis à peu près sûre que c'est illisible. La différence entre le langage parlé et le langage écrit est monumentale. Donc, une interview, quand vous lisez une interview dans la presse écrite, c'est systématiquement réécrit à de très rares exceptions près. Parce que faites l'expérience, faites une interview en cours, interrogez les questions-réponses. Si vous écrivez les réponses telles que vous les avez entendues, ça sera illisible. Donc, se méfier d'interview, quand on commence à écrire, on pense que c'est plus facile, mais c'est une technique d'écriture très particulière. L'écriture, ça s'apprend. C'est pas tout le monde pense que le métier de journaliste est facile. Bon, en gros, on se rend fou, il n'y a qu'à écrire. Non, il n'y a pas qu'à écrire. C'est vrai que c'est pas comme un texte argumentatif, comme une rédac, quand on vous pose, comment on pose un sujet en français. Nous, on n'a pas besoin d'imagination, mais il y a une structure d'article qu'il faut apprendre. Et c'est très difficile à apprendre. Donc quand je donne mes cours à Assas, je tout donne en communication juridique, et j'apprends quand même à des gens qui sont en Master 2 à écrire. Vous vous dites quand même, les gens, ils ont 5 ans d'études derrière eux, a priori, ils savent écrire. Non, ils ne savent pas écrire. Parce que quand on écrit la forme journalistique, c'est une forme, c'est à l'inverse de beaucoup de formes d'écriture. Je prends souvent pour mes étudiants l'image d'un entonnoir. Quand vous avez un texte à écrire, même aujourd'hui, en gros, le texte qu'on apprend à écrire, c'est un texte de démonstration. On part du général pour arriver au particulier et faire la démonstration. On est dans un entonnoir. Le texte journalistique de news, ou après le portrait c'est différent, mais le texte journalistique dans 90% des cas, c'est un entonnoir à l'envers. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce qu'on vous donne, c'est de l'information. Donc on part du fait, et après, on explique pourquoi il y a ce fait. Mais on fait une démonstration à l'envers. Tout est à l'envers. Donc, et vous vous apercevez, quand vous appliquez cette méthode d'écriture à beaucoup de choses, on est toujours intéressé. Donc dans un article, parce que pourquoi ? Dans un article, l'introduction, ça ne s'appelle pas une introduction, ça s'appelle l'accroche. Pourquoi ça s'appelle l'accroche ? Parce qu'il faut accrocher le lecteur. Il faut lui dire, viens lire mon papier, je t'assure qu'il est intéressant. Donc, vous ne crochez pas le lecteur en lui racontant vos vacances, le fait qu'il fait beau, des trucs comme ça. Vous l'accrochez en lui donnant un fait et éventuellement une accroche, une phrase brute. Par exemple, ça va être changement de cap, point. Je ne sais pas, après vous continuez sur l'information. C'est comme un hameçon. L'accroche, c'est comme un hameçon. Vous lancez votre ligne et vous allez chercher le lecteur. Après, vous avez votre développement et après, il y a la chute. Et pourquoi cette accroche est tellement importante dans l'écriture journalistique ? C'est que faites l'expérience quand vous lisez un article. Vous commencez le début, vous zappez au milieu et éventuellement vous allez voir la fin. Et quand vous lisez un journal, c'est pareil. Vous commencez un petit peu au début, vous tournez les pages, mais vous lisez rarement un article du début jusqu'à la fin. Même si vous avez l'impression de le lire jusqu'à la fin. Hein. Donc, mais vous faites ça. Donc le propre pour vendre le journal, il faut que les gens le lisent. Donc il faut que vous accrochiez votre lecteur. Et ça marche à tous les niveaux, même pour la télé. À ce moment-là, l'accroche, elle est non seulement verbale, mais elle est aussi dans l'attitude. Les journalistes ont une approche qu'ils appellent le TCI, le taux de crédibilité immédiat. C'est comme nous, notre accroche à l'écriture. Qu'est-ce que c'est que le taux de crédibilité du média ? Eh bien, il y a plusieurs études qui ont été faites qui disent que le regard du téléspectateur ou son attention se fait dans les 3 secondes du moment où la personne apparaît à l'écran. Or, si dans ces 3 secondes, c'est votre taux de crédibilité immédiat, c'est notre accroche, c'est-à-dire, si dans ces 3 secondes-là, vous donnez l'image de crédibilité, on va vous écouter pour la suite. Après, si vous ne donnez pas cette image de crédibilité, on vous écoutera moins pour la suite. Donc, en l'occurrence, si vous êtes affalé comme ça dans votre chaise et que vous êtes loin de la caméra, demain vous regarderez quand ça sera diffusé. On a votre taux de crédibilité immédiat, il est égal à Freud de 0. D'abord parce que je ne regarde pas la caméra, je regarde autre part, etc. Donc je ne vous regarde pas vous, puisqu'il faudrait que je regarde la caméra comme ça. Donc je m'adresse à vous, à travers la caméra. Le taux de crédibilité. Donc après je peux raconter n'importe quoi, vous ne m'écoutez pas. Maintenant, si je me penche en avant, si je vous regarde à travers la caméra comme ça, si je vous regarde dans les yeux, si je regarde la caméra, et si je parle de mon métier, vous allez m'écouter parce que je vous regarde. Donc déjà, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, en gros, quand on regarde dans la caméra, on écoute et on est penché en avant, on est vers l'autre. Ça, c'est le taux de crédibilité immédiat. Et après, donc, on peut raconter son histoire. Alors, maintenant, comment ça se passe ? Comment se passe la journée du journaliste ? J'aimerais vous faire donc rentrer avec moi dans un journal, parce que on sait rarement comment ça se passe. Et que ce soit à la télé ou partout ailleurs, on a tous à peu près la même journée, sauf au Monde, parce qu'ils sont en décalé, puisqu'ils sortent le soir, ou ils sortent le midi après. Donc, ma journée, mais c'est pareil au Figaro, c'est pareil à l'IFE, c'est pareil partout. Je dis encore sauf au Monde, c'est un autre horaire, mais le découpage est le même. J'arrive vers 9h, c'est pas la peine d'arriver très tôt, au journal, et je commence à regarder les dépêches. Les dépêches, je vous en ai apporté, je vous les laisserai. C'est l'AFP, c'est Reuters, et c'est... Tout ce qui s'est passé, c'est en anglais, c'est en français, l'importance de l'anglais aussi, hein, surtout avec les événements en Moyen-Orient en ce moment, vous avez intérêt à savoir parler anglais, parce que sinon, vous ne suivez pas tout. Donc on commence à regarder les dépêches, et on va sélectionner l'information suivant notre spécialisation. Donc moi, avant d'être grand reporter, je dirigeais le service société des Échos et je m'occupais particulièrement de la justice. Donc tout ce qui avait trait à la justice ou au procès, je sélectionnais ça. Petite précision tout de suite. Quand je vais commencer à écrire, je ne vais pas écrire pour le jour même. Je vais écrire pour vous, c'est-à-dire pour dans 24 heures. Donc, quand je sélectionne mes informations, nous sommes le 18, quand je sélectionne mes informations, il faut que je les sélectionne, non pas en fonction de ce qui s'est passé ce matin, ou a fortiori le 17, il faut que je les sélectionne en fonction de ce que vous aurez envie de lire le 19. Donc, il faut que j'anticipe, non pas sur ce qui va se passer, je n'ai pas de boule de cristal, mais sur ce qui intéressera le lecteur dans 24 heures. Et ça, c'est vrai pour tous les quotidiens nationaux et régionaux. C'est vrai pour tous les quotidiens. On écrit pour dans 24 heures. Bon. 10h, 10h30, première conférence de rédaction. Première conférence de rédaction, vous avez le directeur de la rédaction, les rédacteurs en chef, les chefs de service et les grands reporters. Et donc, on va commencer à sélectionner en fonction de ce qu'on appelle un menu, ce qu'il y a dans chaque rubrique. France, international, service, industrie, etc. et on donne le menu. Ce menu-là, et on donne non seulement l'article, bon ben voilà, par exemple, je prends n'importe quoi, je vous ai pris la première que j'ai trouvée, j'en ai trouvé plusieurs, hein, je vous en ai mis pas mal sur la Libye, de Dépêche, sur l'affaire Renault, sur les Ligues Gaga, il y a tout. Hein, les dépêches, c'est tout. C'est tout. C'est toute l'information. Donc c'est du people, c'est du. Donc il faut déjà qu'on sélectionne tout ça. Mais bon, il y a des filtres, hein, quand même, je vous rassure. J'ai pas à lire toute la ligne Lady Gaga avant de trouver mon article sur la vie. Bon, prenons ça. Donc, je peux proposer imaginons, je vais lui proposer un papier sur le livre de Robert Badinter. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, celui qui a fait abolir la peine de mort en France, etc. Enfin, je suppose quand même que vous savez à peu près qui c'est. Donc, Robert Badinter vient de me sortir un bouquin. Donc, imaginons que je propose un papier sur le dernier livre de Robert Badinter. Donc je vais arriver en conférence de presse et je dis, voilà, je fais un papier sur Voyage au pays du pouvoir de Badinter, je vous propose 25 lignes pour 16 heures. Chez nous, on compte en ligne, alors on peut compter en signes aussi. Chaque journal, là, c'est toujours le même gabarit. C'est-à-dire que la base, c'est le feuillet. Un feuillet dans tous les journaux, et même à la télé, parce que la télé, et on sait combien fait un feuillet, c'est 25 lignes et 1500 signes, espace compris. Dans tous les médias, c'est la même chose. Un feuillet, c'est 25 lignes. Si un jour vous faites des piges, vous serez payé au feuillet, c'est 25 lignes, 1500 signes, espace compris. C'est partout pareil. Et un feuillet, ça fait à peu près une minute d'antenne. Donc, la base, c'est le feuillet. Partout. Y compris à la télévision, y compris à la radio, partout. Peut-être là où ça se perd, sauf pour les pigistes, c'est sur Internet. Parce que, pourquoi on compte en feuillet? Parce que, un journal, c'est du papier, c'est pas de l'élastique. Donc, dans un journal, quel qu'il soit, vous avez un nombre de signes ou un nombre de lignes défini. À la télé, vous avez un nombre de minutes, voire de secondes aussi défini. Internet, la différence avec... Et la radio, pareil, le même nombre de minutes, de secondes défini. Internet, ça fait exploser ce dogme-là de la presse, qui est la taille de l'article. C'est-à-dire que vous pouvez écrire un roman sur Internet, s'il est bon, et si surtout vous voulez être lu, pourquoi pas? Vous n'êtes pas tenu par la place sur Internet. C'est ça qui change tout. Tout. Vous ne pouvez pas savoir comment ça peut changer notre métier. De pouvoir écrire ce qu'on appelle au long, comme au long cours, comme un voyage au long cours. On peut écrire tant qu'on veut. On n'est pas tenu par la place ni par le temps. Et ça, ça change tout. Mais ça ne change pas la méthode d'écriture. Parce que surtout si vous voulez emmener votre lecteur sur une dizaine de feuillets, vous avez intérêt au milieu du papier à faire des relances, vous avez intérêt à continuer de l'intéresser tout au long du papier. Mais quand même, ça change. Donc voilà cette première conférence de rédaction. J'ai annoncé mes 25 lignes. Donc 25 lignes, c'est un demi-feuillet. J'ai annoncé mes 25 lignes sur le livre de Robert Badinter. Le menu passe au desk. Pareil, tous les journaux ont un desk. Desk comme bureau en anglais, D-E-S-K, nous. On écrit comme ça. Comme chapeau aussi, on n'écrit pas comme un chapeau sur la tête, on écrit C-H-A-P-O-T-R-E-M-A. C'est quoi un chapeau? Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais on envoie ça au desk. Le desk, ce sont aussi les journalistes qui vont mettre en page le journal. Dans un journal télévisé ou à la radio, il y a aussi un desk. Ce qui, en fonction des rubriques, va classer vos papiers. Donc, pareil, il sait que
d'une page, chez nous, une page, ça fait à peu près 6000 signes. Donc, il sait combien on peut mettre d'articles, combien on peut tailler, etc. Et où on va le placer dans la page. Donc, il a une page blanche et il va découper sa page en fonction des articles annoncés. Là, j'ai annoncé 50 signes sur Pas d'Inter. À midi, on a ce qu'on appelle l'implante, c'est-à-dire l'implantation. Tous les articles sont implantés dans le journal. Et l'implante, il arrive et il me dit, écoute, tes 25 signes, là, j'arrive à les caser là, mais tu vois, ça fait plus que 23 lignes. Donc, il faut que je fasse mon papier en 23 lignes et pas en 25. Parce qu'encore une fois, la page est pas élastique. Ou au contraire, il me dit, écoute, je suis obligé de l'habiller, on a une pub ici, là j'ai un trou, est-ce que tu peux faire 30 lignes? Il faut s'adapter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'écriture ou la news qui sort, c'est aussi, il faut s'adapter à la page. Il faut écrire en fonction de la place qu'on a. Donc voilà, midi. Et à midi, en fait, et ça se passe partout, sauf à la télé, on va y revenir après, là ça change. Le vrai métier de journaliste commence. C'est-à-dire qu'à midi, on commence à écrire notre article. On ne l'a pas fait avant, parce qu'on sait où il va être placé dans le journal et où et combien de lignes on a à faire. Donc à midi, bon là c'est pour le papier de Badinter, j'aurais pas eu besoin de. Je l'aurais lu avant quand même, mais on va prendre un fait de société. Je vais commencer à passer mes coups de fil pour vérifier, parce que bien sûr j'ai les dépêches AFP, mais les dépêches AFP, pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça suffit pas. Je peux avoir la dépêche AFP ou je peux avoir un communiqué de presse. J'allais dire, c'est encore pire le communiqué de presse par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure entre l'information et la communication. Le communiqué de presse, c'est quelqu'un qui veut vous faire passer un message. C'est de la pub. Le communiqué de presse du PS, de l'UMP, le communiqué de presse du Conseil national des barreaux, le communiqué de presse de Vivendi. Enfin, de la pub. C'est de la communication. On veut vous faire passer un message. Donc le communiqué de presse, c'est sûrement un pour être repris intégralement dans votre canard. Mon métier, ça va être de que ce soit même avec une dépêche. La dépêche, donc vous avez le communiqué de presse et vous avez la dépêche. La dépêche, c'est le fait brut. Ce fait brut, il faut que moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'absorbe et je vous redonne de l'information. C'est-à-dire que je le remette en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va vouloir dire demain? Prenons par exemple cette dépêche d'hier d'Ankara, qui est que le chef de la diplomatie saoudienne est venu en Turquie. Donc, je vais vous lire 3 secondes le début, puis après je vais vous faire voir comment nous on traite ça. Donc, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud Al-Faisal, devait avoir jeudi des entretiens avec les dirigeants turcs sur les conflits en Libye et au Bahreïn, a-t-on indiqué de sources diplomatiques turques. Le ministre saoudien devait être reçu en début de soirée par le ministre turc Recep Tayyip Erdogan, rencontre à laquelle devait aussi participer son homologue Ahmed Davutoğlu, a précisé cette source. Non, je continue, ok. Je vous lis pas la suite. Moi, par rapport à cette information brute, qu'est-ce que je vais faire? Je sais donc que il doit y avoir une rencontre entre le Premier ministre turc et le ministre des Affaires des Affaires étrangères saoudien. Je vous ai dit que ce qui intéresserait mon lecteur, c'est ce qu'il faut que demain. Or, la rencontre, elle n'a pas encore eu lieu. Donc, je vais procéder comment? À quelle question il faut que je réponde? Pourquoi, première question que je me pose, pourquoi aujourd'hui, quel est l'intérêt du ministre des Affaires saoudien, des Affaires étrangères saoudien, d'aller voir le Premier ministre turc? Pourquoi? Vous donnez le pourquoi de cette rencontre. C'est mon boulot. Deuxième question. Le comment. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils sont friendly? Est-ce qu'ils vont serrer la main? Est-ce que ça se passe dans quel contexte? Et surtout, ce que je vais essayer de savoir, c'est de refaire l'historique. Pourquoi? Quels sont les liens, la Turquie, Arabie Saoudite, etc. Et surtout aussi, sachant que mon article paraîtra demain, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Alors là, j'ai pas ma boule de cristal. Mais en revanche, j'ai mon téléphone, je vois source diplomatique turque. Donc, je vais, alors je suis pas journaliste diplôme, hein, je suis pas journaliste diplomatique, mais je fonctionnerai comme ça et n'importe qui fonctionnerait comme ça. On commence déjà à prendre son téléphone et à téléphoner au ministère des Affaires étrangères, français, savoir quelles sont les sources. On a des sources éventuellement en Turquie, on a des sources. C'est-à-dire des gens qui vont nous informer, voilà, ben ils devraient dire ça, ça et ça. Alors, pareil, deuxième filtre, les sources. Je dis bien les sources et je ne dis pas une source. Parce que, et alors là, moi ça m'arrive assez souvent pour ce qui est des grands procès ou des choses comme ça, c'est-à-dire que dans un grand procès, vous avez toujours quelqu'un qui a intérêt à vous informer. Alors là, vous faites des scoops du siècle, on vous file des pièces du dossier, etc. Le problème, c'est quand vous prenez les pièces, on regarde ici. C'est bizarre parce qu'il manque de la page 2 à la page 10. Pourquoi? Oh, ben c'est pas intéressant. Si c'est pas intéressant, c'est pas grave. C'est mon boulot, moi. Donc c'est pas grave, moi je voudrais bien les voir, ces pages 2 à page 10 des pièces. Oh non. Et dans ces cas-là, tu reprends tes documents et puis tu reviens avec le document en entier. Parce que généralement, quand on ne veut pas vous donner une partie de l'information, c'est bien parce que cette information est gênante pour la personne qui vous la donne. Donc ça, c'est notre métier. C'est de ne pas faire confiance à une source. Notre métier, c'est de douter toujours. On est des vrais parano. Mais ça, c'est incroyable. Mais notre métier, c'est le doute et la curiosité. C'est le pourquoi. Nombre de fois dans une journée où je dis pourquoi. Pardon. Mais si vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Non, c'était pas intéressant, alors vous le dites pas. Et vous parlez pas trop fort. Ensuite, si vous doutez. Si vous ne doutez pas, vous ne faites pas votre métier. Donc je pose la question, pourquoi à longueur de journée? Et cette question, pourquoi, je vais la répéter à plusieurs sources. C'est-à-dire que pourquoi le ministre des Affaires saoudiennes, des Affaires étrangères saoudiens va voir le Premier ministre turc? J'ai posé à une source, deux sources, trois sources, quatre sources, cinq sources. Jusqu'à temps que j'ai vu l'éventail et qu'on m'ait donné toutes les versions des faits. Donc toutes ces versions de faits, j'ai absorbé. Après, je la passe à ma moulinette et je vais vous donner cette information-là. Je ferai le papier de cette information-là. Voilà comment on fait de l'information avec la communication. Donc ça, c'est à peu près de midi jusqu'à 16h. Le métier d'écriture d'un journaliste, de presse, c'est très peu de temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, que c'est très formaté l'écriture de presse. Parce que par rapport à la recherche d'information, le métier, le temps d'écriture est très court. Très très court. Vous passez 4 heures à rechercher vos informations et 2 heures à peine à écrire. Et encore, quand je dis 2 heures. Parce que le journaliste, c'est le premier maillon de la chaîne. Moi, j'ai annoncé mon papier de 25 lignes pour 16 heures. Donc ça veut dire qu'à 16h, si je n'ai pas donné mon papier à 16h, donc les pages, elles, quand elles sont montées aussi, elles sont montées en fonction de l'heure de délivrance des papiers, parce que toutes les pages ne partent pas en même temps. Elles partent comme ça. La une part avec la der, c'est les dernières à partir, tout le temps, dans tous les canards. Ensuite, elles vont partir comme ça. Donc là, la 4 part avec la 37, à chaque fois. Et elles vont être montées en fonction de l'heure à laquelle les articles ont été annoncés. Donc généralement, pourquoi à l'intérieur des journaux, dans tous les journaux, vous avez des petites news, ce qu'on appelle du froid entre guillemets, c'est-à-dire des choses, moi mon papier de 16h, il va être plutôt à l'intérieur parce qu'il va pouvoir partir vite. Parce que derrière moi, mon papier, quel que soit mon niveau, va être relu par 3 ou 4 personnes. Le journaliste de base envoie son papier à son chef de service. Première relecture. Le chef de service l'envoie au rédacteur en chef du secteur. Troisième relecture. Le rédacteur en chef envoie la copie au desk. Au desk, il y a 2 lectures. La première lecture, elle est faite par des gens qui sont là pour, qu'on appelle les correcteurs. Les correcteurs, ils sont là pour, malgré ces 3 ou 4 degrés de lecture, vous avez toujours la faute de frappe, la faute d'orthographe, parce que la faute de syntaxe, ou la tournure de phrase qu'on ne va pas comprendre. Et le correcteur, il est là pour ça. Il vous renvoie votre truc avec des trucs soulignés en rouge. Là, je ne comprends pas. Ou voilà, c'est quoi ce mot-là? Il n'est pas expliqué, genre PQR, on ne sait pas ce que c'est, tu as oublié de le mettre en nom, etc. Donc, on en est au 4e ou 5e degré de lecture. Le correcteur renvoie ça au desk, qui le met dans la forme, donc qui le met dans la pinche, et le desk le relit une dernière fois. Regarde si votre titre et votre chapeau, le chapeau c'est ce qu'il y a tout de suite en dessous le titre. Voilà, généralement avec un mot-clé. Et ensuite c'est l'introduction, plutôt ce qu'il y a dans votre papier en résumé, un résumé de votre papier. Ce n'est justement jamais l'introduction de votre papier. Donc voilà, on en est au 5e ou 6e degré de lecture. À 18h, conférence de une. C'est-à-dire qu'à 18h, on choisit ce qui va être en une du journal. Alors vous avez la une, vous avez ensuite, nous on l'appelle comme au monde d'ailleurs, ensuite il y a le ventre qui est au milieu. Et ensuite, il y a les brèves de une en bas. Et vous avez les chandelles, c'est des petites unes sur le côté. Tout ça, c'est un langage qu'ont à peu près tous les journaux se voient comme ça. Alors la différence donc sur le temps, vous voyez que donc nous, on a de la chance. J'ai du temps par rapport à mes confrères de radio et télé. J'ai du temps. J'ai 1 heure, 2 heures pour faire mon papier. C'est royal. Parce qu'un journaliste télé, quand il sort d'une audience, par exemple, moi je suis les audiences, pour le dernier grand procès c'était Chirac, Chirac, il n'a pas été là, donc c'était le procès des emplois fictifs de la ville de Paris, où Chirac était poursuivi et où il aurait dû être et où il ne sera sans doute jamais. Et contrairement, alors outre le fait politique, ça c'est important, ce qui était très difficile là pour les journalistes télé et radio, c'était que c'était excessivement technique au niveau de la technique juridique. C'était excessivement technique. Donc, je ne sais pas, par exemple, ma consoeur, une consoeur de LCI, elle avait, mais genre 5 minutes pour dire, en même pas un feuillet, un truc que moi je vais prendre au moins 2 feuillets et je vais avoir 2 heures pour pouvoir expliquer. Donc, c'est pour ça que la news télé, elle est automatiquement plus schématique que la news papier. On a du temps, on a plus de place qu'eux. C'est pas pour ça que c'est pas bien leur boulot, c'est que c'est différent. Et c'est pour ça aussi que vous, quand vous prenez de l'information, si vous prenez que l'information à la télé, c'est pas suffisant. Parce que là, c'est de la communication. Enfin, sauf c'est des émissions, de magazines, etc. Mais c'est pas suffisant. Vous n'avez pas tout ce que je viens de vous décrire, tous les appels, les pourquoi, les comment, etc. Ils n'ont pas le temps. Ils vous donnent de l'information quasi brute. Donc, voilà à peu près notre journée. Ça va se terminer vers 21h. Vers 21h, le journal est bouclé. Et il y a après ce qu'on appelle des repiques. La repique, c'est jusqu'à 11h30. Parce qu'après, c'est un journal, c'est imprimé. Donc, si vous livrez votre papier en retard au départ, l'imprimerie, elle attend pas. Hein. Donc, il faut tout s'accélère au fur et à mesure. Et je peux vous dire, quand vous téléphonez un journaliste à 18h, vous vous faites jeter parce qu'à 18h, c'est comme un sprinter, quoi. On accélère parce qu'on est en retard, ou que de toute façon, il faut livrer, on est systématiquement en retard, de toute façon. Mais il faut livrer son papier, il faut livrer sa copie. Ça demande un effort, et mes collègues de radio et de télévision encore plus, ça demande un effort de concentration totalement épuisant, mais pendant 2 heures, pendant 1 heure, vous devez être exclusivement et uniquement concentré sur ce que vous allez écrire, parce que vous devez écrire vite. Je vais vous raconter une anecdote à cette occasion-là. Quand je suis arrivée au Déco en 2000, à l'époque, il y avait encore un service politique société pas très important. Et arrive 2002. Et donc, au service politique, ils me disent tu veux venir nous donner un coup de main pour la campagne? Et les journalistes politiques avaient pris les grands partis, RPR à l'époque encore et PS. Et ils me disent prends les petits partis, qu'est-ce que tu veux? Extrême gauche ou extrême droite? Écoute, plutôt extrême droite, parce que moi j'ai fait mon mémoire dessus à Sciences Po et que je connais bien les réseaux et que j'ai justement l'historique des personnages, etc. Donc j'aurais moins à me documenter. Et donc je commence à suivre la campagne de Le Pen. Et je dis à mes copines, je leur dis, il se passe un truc étrange quand même, vous. Oui, mais bon. Ok. Arrive le 21 avril. Le 21 avril, nous, les soirées électorales dans un canard, dans tous les canards, ça se passe. Et oui, je précise que mes chères petites camarades m'avaient dit « T'inquiète pas, de toute façon, après le premier tour, t'es en vacances, ça sera terminé. Je arrive le 21 avril, donc la soirée électorale, on arrive généralement vers 13-14 heures, et on commence à avoir les premiers sondages sortis des urnes, qui ne sont pas des sondages publiables. Mais il y a tout le temps des sondages sortis des urnes et il y a aussi les renseignements généraux, enfin ex-RG qui nous renseignent. On a des tendances. À partir de 15-16 heures, on sait à peu près qui va être au deuxième tour, quelles sont les grandes tendances, même si on n'a pas les chiffres exacts. Les instituts de sondage font des sondages sortis des urnes, etc. On a des pourcentages. Et vers 16h, j'ai un premier, j'ai un, premier coup de fil d'un sondeur qui me dit « Le Pen au deuxième tour ». Je lui dis « Écoute, ça va, c'est pas rigolo, je raccroche. » 16h30, deuxième coup de fil. Le Pen au deuxième tour, deuxième sondeur, pas le même. Je lui dis « Ouais, mais c'est de moins en moins drôle, Ipsos vient de me dire la même chose, vous vous basez sur quoi, etc. » Troisième coup de fil, les RG qui me disent « Le Pen au deuxième tour », et alors là, c'est grande panique générale. 18h, je vois mon directeur de la rédaction descendre, il était blanc comme la feuille, et il nous dit « Le Pen au deuxième tour ». Et donc je suis passée, et là, quand je vous parlais de la concentration, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu une réaction citoyenne complètement affolée. J'étais liquéfiée, mon cœur s'est mis à battre, j'avais chaud, j'avais des sueurs partout en me disant « Mais comment c'est possible ?» Même si j'avais vu ça venir en ayant suivi la campagne de Le Pen, personne ne voulait y croire en fait. Je pense que beaucoup de gens étaient au courant, mais personne ne voulait y croire. On pensait que ce n'était pas possible. Mais pour vous dire, il a fallu que ça, j'arrête tout de suite. Parce qu'il était 18h, qu'on bouclait à 21h, qu'il fallait que mon article de 45 lignes, je passais à 150 lignes d'analyse, pourquoi Le Pen était au deuxième tour et ce qui allait se produire. Donc là, il a fallu que j'arrête tout de suite de penser en citoyenne et que je parle en journaliste. C'est-à-dire que mon opinion, vous n'en avez rien à faire et vous avez raison. En revanche, vous voulez de l'information. L'information, c'était pourquoi Le Pen était au deuxième tour, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et donc, il fallait. Et vous ne construisez pas un article de 150 lignes, bien entendu, comme vous construisez un article de 45 lignes. Et là, il faut absolument que vous deveniez, pas un robot, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains, mais il faut que vous mettiez votre casquette de journaliste et que vous, non seulement vous vous concentriez, mais surtout que vous évacuez toute toutes vos émotions, parce que vos émotions, ce n'est pas de l'information. On vous demande une information objective, même si, et là c'est peut-être un débat qu'on va lancer, c'est pour ça que je vais arrêter là-dessus, une information objective de fait brut, ça existe. En revanche, vous y mettez toujours un peu de vous dans cette information. Donc, il est important pour vous, quand vous lisez un papier, comme moi, je n'ai pas une seule source, vous n'ayez pas une seule source d'information, mais plusieurs. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions.